Alors, toujours en matière de cession de parts, de cession d'actions, il faut aborder une chose qui est importante en pratique, qui est la question des garanties de passifs. Et je suis à nouveau avec Alain Courret, professeur à Paris 1 comme moi, avocat associé, et nous allons évoquer cette question des garanties de passifs. Déjà pour dire que dans les textes, on ne trouve rien sur les garanties de passifs, ou quasiment rien. Ces garanties de passifs, en quoi consistent-elles? Lorsque l'on fait une cession de part ou une cession d'action, le cessionnaire, donc l'acquéreur, peut vouloir se garantir et demander, en plus des garanties légales, dont on sait qu'elles ne sont pas très fortes, qu'elles ne sont pas très efficaces, il peut demander que des garanties contractuelles lui soient données, c'est-à-dire... Par exemple, que, et pour faire au plus simple et au plus clair, si une dette apparaît, mais dette qui a une origine antérieure à la cession, eh bien à ce moment-là, le cédant lui devra garantir, c'est-à-dire que le cédant peut-être devra verser une certaine somme à la société cédée pour éteindre la dette, ou peut-être devra verser une somme au cessionnaire, à l'acquéreur, pour compenser la perte de valeur qu'il subit. Voilà, donc ce sont des garanties contractuelles qui sont assez variées, qui sont assez diverses, et qui vont être stipulées par les parties à une cession, avec généralement une discussion assez importante sur la formulation et sur l'étendue de la garantie. Alain, est-ce que tu peux évoquer la typologie de ces garanties, les grandes catégories ?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de variantes, et surtout... Les praticiens ont quand même l'art de mélanger un petit peu les genres, ce qui est normal d'ailleurs pour assurer la meilleure protection. Alors on peut quand même essayer de faire une typologie et on peut essayer de partir de la distinction peut-être la plus simple et qui reste vraie malgré les évolutions, qui consiste à dire d'un côté on va avoir de véritables garanties de reconstitution du patrimoine. Je m'engage à garantir l'actif et le passif. Si un passif vient à apparaître, qui trouverait son origine à l'époque où j'étais le propriétaire de la société, eh bien je m'engage à garantir ce passif. Garantir, cela veut dire que, sans limite aucune, quasiment, je m'engage à tout réparer. Et donc ce sont des clauses extrêmement dures, puisque si on n'a pas nuancé les choses... C'est un cas de reconstitution du patrimoine. Et normalement, je vais verser les sommes dans le patrimoine de la société et non dans les poches de l'acquéreur lui-même. Ça, c'est un petit peu le modèle radical. Évidemment, ce modèle extrêmement brutal a fini par désespérer un petit peu la pratique. Et on a vu se développer une deuxième variété qui, elle, participe beaucoup plus de l'idée de réviser un petit peu le prix qui est payé par le cessionnaire avec une limite naturelle qui est ce prix. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, si véritablement l'entreprise que j'ai vendue ne vaut rien, eh bien le prix deviendra un prix zéro. Là, on est avec des clauses qui sont moins violentes et qui sont évidemment plus facilement supportables par le débiteur. Maintenant, quand on regarde les actes de la pratique, on constate que les avocats ou les notaires, tous les rédacteurs, ont l'art de combiner un petit peu ces catégories. On trouve des clauses de reconstitution avec un plafond, ce qui fait qu'on ne reconstitue pas intégralement. On trouve divers processus de plafonnement, de franchise, qui font que l'opposition que j'ai présentée est quand même beaucoup moins radicale dans les faits que ceux que l'on peut écrire.
Oui, on va trouver aussi des clauses d'exclusion de certains passifs. Ne seront pas garantis les passifs dont l'acquéreur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance. On va trouver ce type d'exclusion, puisque l'idée est que si vous achetez une société, on veut bien vous garantir des choses dont on n'a pas tenu compte pour déterminer le prix, mais en revanche, ce que vous connaissez ou ce que vous devriez connaître, ça on peut considérer que ça ne sera pas compris dans la garantie parce que vous achetez la société en considération aussi de ces choses. Alors on pourrait évoquer d'ailleurs une clause qui est assez proche de celle des garanties de passifs, mais très rapidement, ce sont les clauses de complément de prix ou d'earn-out puisqu'elles se développent beaucoup. L'idée c'est que je vends ma société, mais on détermine d'un prix. Alors, on pourrait déterminer un prix, peut-être un prix élevé, et puis après, on découvrirait que finalement, une partie du prix n'est pas due et qu'il faut la rendre. Là, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on part d'un prix bas, et si la société, dans les exercices qui viennent, réalise des résultats qui dépassent un certain seuil, alors j'aurai droit à un complément de prix. C'est-à-dire que j'ai vendu ma société, je t'ai vendu, par exemple, Alain, ma société, tu la développes. Et si tu la développes dans les deux exercices qui suivent la vente, de sorte qu'elle fasse un résultat qui dépasse un certain seuil, eh bien, à ce moment-là, tu devras me verser une certaine somme à titre de complément de prix. Le problème que posent ces clauses, c'est qu'il est assez tentant pour celui qui achète la société, eh bien, sur les deux exercices qui suivent la cession, de ralentir un peu l'activité. Et puis, le troisième exercice, la société va bondir d'un seul coup et va réaliser ces fameux résultats que moi j'attendais. Et là, c'est très frustrant pour moi qui ai vendu ma société, parce que je ne peux que me dire « Ah, si jamais j'avais, si j'étais resté aux commandes de la société, elle aurait fait un bien meilleur résultat. » Et du coup, ce sont des clauses qui, en apparence, sont très simples et sont très juste finalement pour voilà, vous vendez votre société et vous obtiendrez un juste prix, sauf que ce sont des clauses qui génèrent un contentieux important, puisqu'il va être assez tentant pour moi cédant de contester si la société a des résultats décevants, et pour le cessionnaire d'essayer de trouver le moyen de maquiller ou d'empêcher le jeu de la clause.
Oui, ce sont des clauses à fort contentieux qui se développent en Europe, parce qu'au fond, c'était une pratique qui était un petit peu inusitée jusqu'à une époque récente. Elle se développe. Je crois qu'il faut bien comprendre que la grande difficulté pratique sera toujours de s'entendre sur ce qui est un résultat. Comment définir ce résultat? Alors, on peut l'approcher techniquement. On peut toujours dire que le résultat sera tel élément, mais il pourra toujours y avoir discussion aussi sur la manière de réaliser ce résultat. Et bien souvent, et on le voit en pratique, une PME est absorbée par un grand groupe. Cette PME produisait probablement des résultats qui étaient sincères. Simplement, le grand groupe va appliquer ses propres méthodes comptables, il va normaliser tout ça dans un ensemble, et les résultats ne seront plus les mêmes, en fait. C'est le résultat de changement de méthode, c'est le résultat aussi du fait qu'une PME extrêmement dynamique, lorsqu'elle a un leader charismatique, se trouve quelquefois être beaucoup moins dynamique dès lors qu'elle rentre dans le giron d'un grand groupe. Donc, il y a quantité d'éléments qui vont interférer avec une logique apparente, qui était de dire, à partir de tels résultats, on fera ou on ne fera pas, que bien souvent des contentieux naissent. Naissent aussi des contentieux liés à la difficulté technique. Des clauses de earn-out sont souvent très très sophistiquées, bien sûr, parce que tout ça va se faire avec une espèce d'échelle de résultats et de conséquences attachées, et le cédant n'a pas tout compris. Le cédant croit, pour lui c'est évident, et en réalité, à l'heure où l'on essaie de mettre en œuvre, le cédant découvre que, manifestement, il n'a pas compris la logique des choses. Donc voilà, ce sont, je crois, d'excellentes choses, ces clauses-là, notamment dans les périodes de dépression économique, où à un certain moment, la valorisation des entreprises est faible parce que le marché n'est pas bon, et la possibilité d'anticiper sur un futur qu'on espère meilleur est évidemment très, très confortable.
Bien, donc nous avons vu ces clauses à la fois de garantie de passif et également ces clauses de complément de prix. Merci Alain.
Merci beaucoup.